Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
5 sur RMC, RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi avec aujourd'hui autour de la table Rémi Barré, le journaliste média, mais pas que, Thierry Moreau. On est avec une petite nouvelle dans la bande, c'est Azilise Le Cordurgé, elle est journaliste au Figaro et puis le journaliste et écrivain Fred Hermel. On est avec vous également jusqu'à 15h au 32-16 pour réagir à nos débats. Et tout d'abord, ces sociétés d'autoroute qui accordent des réductions sous conditions au péage cet été, mais faut-il des ristournes pour tous? On attend également vos messages sur l'appli RMC. 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h45, la minute conso avec Stéphane Pedrazzi. On parlera du boom des lunettes d'occasion. Bah oui, ça existe, les lunettes d'occasion, et ça se vend très bien. Les montures, bien sûr, pas les verres. À 14h, 2,5 millions de Français vivent aujourd'hui en colocation, mais habités avec des amis, des étudiants ou des seniors. Est-ce l'enfer ou le paradis? Et puis 14h30, RMC s'engage pour vous. On tentera d'aider Marie qui a été victime d'une arnaque à l'amour. Elle a quand même versé 20 000 euros à un homme rencontré sur un site de rencontre. On essaiera de l'aider, évidemment.
RMC Estelle Midi.
6 sur RMC et on va tout de suite s'intéresser à la ristourne du jour. C'est celle que demande Clément Beaune, le ministre des Transports aux sociétés d'autoroutes. Il réclame de baisser le tarif des péages cet été. Rémi Barré, l'année dernière, ça avait été le cas. Il y avait eu une baisse de 10%, mais attention, pas pour tout le monde.
Exactement, comme l'année dernière, les conditions pour obtenir cette remise sont très précises. C'est Vinci qui a dégainé le premier, Vinci qui a donc répondu à la demande faite par le ministre des Transports. Alors, pour obtenir cette remise, il faut d'abord bénéficier des chèques vacances qu'accordent aux salariés les comités d'entreprise. Ça concerne 5 millions de Français. 5 millions de Français, donc, qui ont le droit à ces chèques vacances. Donc, déjà, c'est limité. Il faut ensuite souscrire à un abonnement télépéage Ulysse Liberté Vacances. C'est son nom. Son prix est de 4 euros pour un mois. Cet abonnement, ensuite, vous pouvez donc déposer vos chèques vacances sur ce compte dans une limite de 250 euros et bénéficier de 20% de réduction. C'est même 25% chez APPR, les autoroutes Paris-Rhin-Rhône, une offre valable du 15 juin jusqu'au 31 juillet prochain. Un geste qui va donc dans le sens de ce qu'a demandé hier le ministre des Transports. Clément Beaune estime que dans la période difficile que vivent les Français avec l'inflation, il est normal que les sociétés d'autoroutes fassent un effort. En revanche, il a qualifié de démagogie la proposition du député LFI François Ruffin qui, lui, voulait que les autoroutes soient gratuites durant tout cet été.
Alors, faut-il des ristournes pour tous, Azilise Le Cordurgé?
Moi, j'aurais tendance à être d'accord avec François Ruffin. Je pense qu'il faut, en effet, ça peut paraître étonnant, comme ça, sur le papier. Mais finalement, c'est le moment où tout le monde est censé partir en vacances. Le prix d'essence a déjà énormément augmenté. Et c'est un coût de devoir payer à chaque fois l'autoroute. Et beaucoup de personnes, finalement, reculent, décident de ne pas partir parce que c'est trop cher. Donc moi, je suis, en effet, pour cette liberté-là. Et je crois que quand les sociétés autoroutières font 17% de bénéfices, elles pourraient au moins baisser leurs tarifs.
Oui, mais enfin, on a appris aussi que la SNCF avait fait 23 milliards de bénéfices l'année dernière. Moi, j'aurais préféré que Clément Beaune, il demande en fait des ristournes à la SNCF et pas aux sociétés d'autoroute, sachant qu'en plus, on n'arrête pas de nous dire qu'il faut plus prendre la voiture. Mais moi, je comprends pas. On me demande de plus prendre ma voiture, de prendre le train. Mais en revanche, on baisse le prix des péages et pas celui du train. Bah, moi, j'ai un petit problème
avec
ça.
Oui, sauf qu'il faudrait aussi que l'offre de la SNCF nous permette d'aller à peu près partout. Mais comment vous faites quand vous êtes une famille, ne serait-ce qu'avec deux enfants, vous trimballez tous vos sacs, etc. Vous êtes ultra chargé, c'est quand même pas très pratique. Et surtout, on sait que un train, ça nous amène d'un point A à un point B. Et oui, on ne peut pas aller dans les endroits plus
intimes,
etc. Oui, si
c'est à 10 km de la gare, évidemment.
Absolument.
C'est bon.
Donc c'est quand même difficile. Et aujourd'hui, on voit bien que la SNCF, ce qu'elle met en place, c'est plutôt pour les jeunes, pour que les jeunes puissent prendre des trains de nuit, etc. Mais ce n'est pas du tout ouvert aux familles.
Fred Hermel, est-ce qu'il faut arrêter de demander aux sociétés privées d'aider les Français?
Alors dans ce cas-là, il faut demander, parce que je vous rappelle que nous avons fait les concessions.
Bah oui, on a mal négocié.
On a mal négocié. Oui. Elles se sont fait, on peut dire, des couilles en or, oui, hein, on va dire le mot tel que c'est. Oui. Alors, sur la gratuité...
Par la faute de l'État.
Par la faute de l'État, bah, on est d'accord. Mais bon, si cette concession avait plus bénéficié à l'État que prévu, ou plutôt si les sociétés d'autoroute n'avaient pas gagné autant d'argent, je suis sûr qu'elles se seraient retournées contre l'État, elles auraient fait des procès pour récupérer de l'argent.
On peut pas savoir.
Donc là, on ne peut pas savoir. Mais là, elles gagnent beaucoup trop d'argent. Donc, la gratuité, ça me paraît nouveau, ça. un peu compliqué. Parce que la France est un pays central en Europe, donc il y a quand même beaucoup d'étrangers, donc des gens qui ne payent pas d'impôts en France, qui pourraient bénéficier de ces ristournes. Donc la gratuité, si on fait gratuité, en fait, beaucoup de non-français, donc qui n'ont pas financé ces autoroutes, ne bénéficieraient de ça.
D'accord.
Alors je pense qu'il y a peut-être un système, alors j'écoutais Rémi, peut-être qu'il pourrait y avoir une ristourne. Moi, ce que je veux, c'est une ristourne pour tout le monde, parce que 5 millions, ça suffit pas sur 67 millions de Français qui ont droit aux vacances. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont des artisans, qui ont des, voilà, et puis des gens des indépendants, ils n'ont pas de, il y a plein d'entreprises.
Et tout le monde n'a pas un badge TPH, quoi.
Non, non, mais alors, mais par contre, qui est cette possibilité d'avoir ce badge TPH pour avoir une réduction de 20 à 25% pour tous les Français, pour des voitures immatriculées en France?
Oui, voilà, oui,
c'est-à-dire, un étranger européen qui paye ses impôts en France, il pourrait bénéficier de ça. Donc, les voitures immatriculées en France qui puissent avoir une véritable réduction, là, je suis pour. Après, gratuité pour tout le monde. Des gens qui n'ont pas financé les autoroutes en bénéficieraient, donc je suis contre.
Ils ont raison de cibler effectivement sur les gens qui ont soit le badge télépéage, Thierry, ou soit la carte chèque vacances, quoi. Enfin,
oui, après, c'est une habile façon de ne pas donner une ristourne pour tout le monde.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire que ça va être des formulaires en 15 exemplaires avec 3 tampons, 12 demandes, et donc il y a très peu de gens qui pourraient en bénéficier, qui n'en bénéficieront pas et qui vont s'arrêter avant même d'avoir terminé les démarches. Donc, faut arrêter d'être faux cul. C'est une fausse promesse. Faut aussi arrêter d'être totalement démago, parce que les autoroutes gratuites, c'est impossible. On est dans un régime en France, et tu l'as rappelé, de concessions où on a donné à des sociétés privées, en échange d'un certain nombre d'obligations, entretien, investissement, etc., la possibilité de faire des bénéfices. Ils en font beaucoup. On n'a pas suffisamment bien verrouillé les choses pour que, quand ils font un peu plus que ce qui était prévu, parce qu'il y avait des chiffres qui étaient annoncés dans les contrats, ils puissent éventuellement reverser. Donc la seule solution, l'unique solution, c'est à la fin des concessions, renégocier les contrats de manière plus favorable pour l'État, c'est-à-dire pour nous. Ça, c'est le premier point. Je rappellerai, dans le côté des magots, que l'année 2015, les prix des autoroutes ont été bloqués à l'initiative de Ségolène Royal. Okay. Sauf qu'en fait, ça a été bloqué sur une courte période, en l'occurrence un an, et que ça a été remboursé ensuite de 2016 à 2023. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, on paye le remboursement de ce blocage des autoroutes parce que c'était contractuel. Parce qu'on ne peut pas dire à une société privée, bah non, vous baissez vos tarifs, ça n'existe pas. Et ça a coûté 500 millions d'euros de plus que ça aurait coûté si on avait fait l'augmentation en 2015. 500 millions d'euros que vous tous ici ont payé. Donc, faut arrêter avec la démagogie. On ne peut pas nationaliser les autoroutes, c'est trop cher. Il faut juste renégocier de manière très dure les contrats au moment du renouvellement des concessions.
Rémi, vous avez plein de messages sur l'appli RMC. J'imagine que nos auditeurs, nos téléspectateurs réclament le péage gratuit.
Il y a le message, par exemple, de Jean-William qui nous dit « Bonjour, votre débat sur les concessions autoroutières m'interpelle. Depuis quand est-il obligatoire de prendre l'autoroute ?»
Voilà.
On paye rien, en revanche, sur les routes. On roule moins vite. Il parle des routes nationales, oui, départementales. Et on consomme. Donc, moi, ce débat n'a pas lieu d'être.
Il n'y a plus d'accidents.
Ça, c'est réglé. Oui.
Il y a plus d'accidents.
Oui, et on met plus de temps.
Donc, ça, c'est
peut-être
sûr.
Qu'on pollue plus. Puisqu'on reste plus de temps sur la route. Enfin, je veux dire,
faudrait vérifier.
Enfin, c'est à vérifier, oui.
Et attention aux platanes.
On est avec Fabrice Godefroy, c'est notre invité sur ce débat. Il est expert mobilité et environnement de l'association 40 millions d'automobilistes. Bonjour Fabrice.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous Fabrice. C'est une bonne chose ça de demander des ristournes finalement aux sociétés d'autoroute?
Je pense que franchement c'est un coup de pouce nécessaire pour le pouvoir d'achat des Français et surtout les automobilistes. Il faut quand même se rappeler que toute l'année, les automobilistes ont subi des augmentations de carburant qui étaient extrêmement fortes. Donc évidemment que c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire. Et en plus de ça, il faut véritablement l'élargir à tout le monde, pas uniquement à ceux qui ont un badge péage ou ceux qui ont des chèques vacances. Il faut que ça soit une réduction pour tout le monde. Et tout à l'heure, j'ai entendu peut-être qu'effectivement, ceux qui ne sont pas français, c'est peut-être dommage de leur en faire bénéficier. Oui et non, parce que à la limite, on est quand même content que les étrangers viennent en France en vacances pour faire marcher l'économie française.
Oui, beaucoup passent pour aller en Espagne ou au Portugal quand même. On est aussi, vous le savez bien, qu'il y a quand même beaucoup de Néerlandais, de Belges qui traversent la France pour aller sur notre territoire. Oui. Hein.
Je suis complètement d'accord.
Enfin, il passe pas par Rennes, par exemple.
Mais plus on fait une usine à gaz, et moins ça marchera. Il faut quand même se rappeler d'une chose, quand même. Cette année, on a eu une augmentation des péages de 4,75. Mmh. C'est quand même une augmentation record. On a eu une augmentation en 2022 de 2%. Donc, vous voyez, quand vous faites 2 plus 4,75 sur 2 ans, on est à 6,75. Donc, quelque part, on redonne sur une période où les Français prennent plutôt l'autoroute parce qu'ils ont envie de partir en vacances, ils en ont besoin. Et d'ailleurs, on l'a vu pendant tous les week-ends du mois de mai. Malgré l'augmentation et l'inflation, ils partent quand même en week-end parce qu'ils en ont vraiment besoin. Et donc, l'autoroute a beaucoup d'avantages. Évidemment, on en a parlé et Estelle l'a dit, il y a le côté sécuritaire, c'est beaucoup plus pratique. Et puis, vous avez abordé un sujet qui est très intéressant, c'est la pollution. Alors, c'est pas vraiment votre sujet, mais vous l'avez abordé. Et comme je suis expert mobilité et environnement, je me permets d'en parler. Vous savez, l'avantage de l'autoroute, c'est qu'on est loin, en fait, des centres-villes. Parce que quand vous prenez les routes secondaires, finalement, on rapproche les voitures des centres-villes. Donc, finalement, quand on est sur une autoroute, finalement, au niveau de la pollution, c'est bien plus intéressant. Et en plus, on est en vitesse constante. Donc, en étant en vitesse constante, on n'est pas là en train d'accélérer, de freiner. Et donc, c'est finalement, on pollue moins et on consomme moins. Donc, ça a beaucoup d'avantages. Et franchement, il faut véritablement le faire, mais pour tout le monde et pas faire une usine encore à gaz qui ne marchera que pour certaines personnes.
Alors, vous dites pour tout le monde, Fabrice Godefroy, mais moi j'ai bien entendu quand même le gouvernement ces derniers mois qui nous pousse à acheter des véhicules propres. Il y a l'histoire des ZFE avec les vignettes critères. Mieux vaut avoir un critère 1 qu'un critère 5, évidemment. Est-ce qu'on n'aurait pas dû conditionner cette aide au péage finalement à la vignette critère, c'est-à-dire que réduction pour tous ceux qui ont des véhicules propres pour pousser les Français à les acheter ces véhicules propres justement.
Estelle, vous êtes vraiment dur avec les automobilistes. Justement, vous venez juste de le dire.
C'est parce que je viens d'acheter une hybride.
Les pauvres, parce que les pauvres automobilistes, aujourd'hui, ils se prennent un matraquage à tous les niveaux. Alors, vous l'avez dit.
Oui, mais c'est moins cher que le train et l'avion, n'empêche. Vous partez, vous êtes quatre. Vous décidez de partir, mais mettons, vous habitez en banlieue parisienne, vous décidez de partir à Marseille. Ça vous coûtera moins cher, de toute façon, en voiture, qu'en avion ou en train.
Justement, c'est pour ça que les Français privilégient la voiture. Parce que c'est justement moins cher et c'est plus pratique et sur place, vous pouvez l'utiliser. Mais par contre.
On n'éradiquera jamais la voiture.
Vous avez démarré le sujet, vous avez complètement raison. C'est quand même un paradoxe, ça c'est sûr. On est en train de nous dire toute la journée qu'on n'a pas besoin de la voiture, que les transports en commun, il n'y a pas de problème, c'est fantastique, c'est extraordinaire. C'est bien la preuve que le gouvernement se rend bien compte que l'automobile, c'est nécessaire pour tout le monde. Et d'ailleurs, pas que pour partir en vacances tous les jours. Il y a 40 millions d'automobiles sur 67 millions de Français. Et il y a un moment, on peut pas, on leur met déjà des malus de plus en plus sur l'achat des véhicules. Les véhicules augmentent de plus en plus. On les pousse à acheter des véhicules 100% électriques qui sont 50% plus chers qu'un véhicule thermique. Il y a les zones de faible émission qui veulent dire vous n'avez pas la bonne voiture, vous pouvez pas la changer, et bah tant pis, vous n'aurez plus le droit de rentrer dans les métropoles. Donc ça suffit comme ça. Un petit coup de pouce une fois de temps en temps dans le bon sens pour les automobilistes, franchement, c'est le bienvenu.
Rémi Barré, d'autres messages sur l'appli RMC. J'ai l'impression que tout le monde est pour que ce soit gratuit pour tous, c'est bizarre.
Ouais, ce message de Raphaël, alors lui non. Lui, il est original, Raphaël. Il nous écrit sur Direct Studio. Alors, au sujet des autoroutes, moi je voudrais c'est qu'on laisse les automobilistes français payer comme d'habitude. En revanche, qu'on facture, qu'on surfacture les véhicules poids lourds étrangers et qu'on réduise le prix pour les transporteurs français. Ça permettrait de faire en sorte que les poids lourds qui utilisent moins les nationales soient plus facilement sur ces grands axes.
Juridiquement, c'est très compliqué parce que nous faisons partie de l'Europe.
Encore une fois, l'Europe.
L'Europe n'est pas source de tous nos maux. Mais enfin, il y a un moment où, on a pris une décision, ça s'appelle l'Europe et donc c'était pas possible.
On ne pourrait pas taxer un camion allemand qui ne fait que passer à travers la France pour aller en Espagne parce que l'Allemagne.
Et qui ne consomme même pas parce qu'il a acheté son sandwich en Allemagne. Ça, vous allez me dire, Thierry. Fabrice Godefroy, ce serait possible ça, cette proposition de Raphaël de finalement mettre le péage gratuit pour les Français et de surtaxer les poids lourds étrangers? Ça paraît compliqué quand même.
Alors, on a essayé de le faire à une époque, vous rappelez?
Ça n'a pas marché, on paye
et
toujours.
Puis, vous rappelez, il y avait des bonnets rouges, je crois, qui avaient interdit.
Oui, complètement.
Et on a mis des portiques partout
qui n'ont jamais servi.
Les qui nous a coûté des fortunes qui n'ont jamais servi. Voilà. Donc, malheureusement, la théorie, c'est très, très bien.
C'est encore Ségolène, je crois.
Tout à fait, Ségolène Royal. Donc, malheureusement, il y a la théorie et la pratique. Après, sur le principe, évidemment, je suis d'accord avec vous. Mais après, il ne faut pas que ça soit une usine à gaz.
Aziliz, est-ce que le gouvernement a raison de se mêler de ça, entre guillemets, parce que j'imagine qu'en ce moment ils ont quand même d'autres chats à fouetter que d'aller négocier une ristourne, parce que là, attendez, on parle quand même d'une ristourne de quelques euros, pas plus, on parle pas d'un chèque énergie de 100 euros, etc. Ça va être 5 euros, 6 euros, mais est-ce que le gouvernement a raison de se battre là-dessus? Est-ce qu'il n'y a pas, je veux dire, d'autres priorités quand même?
Ils auraient raison de se battre s'ils avaient vraiment une possibilité de changer les choses. En fait, ils ne peuvent rien faire. Donc, c'est plutôt tout bénef pour eux parce qu'ils disent qu'ils sont du côté des Français, des vacanciers, des classes populaires en particulier qui subissent en fait ces prix très élevés, la hausse de l'essence, etc. Donc, c'est tout bénef pour le gouvernement de dire nous, on vous soutient. De toute manière, on peut rien faire. Donc, en fait, il faut vous en prendre aux sociétés autoroutières.
Oui, ils peuvent souhaiter, implorer, c'est mais bon. Pas exiger.
Absolument.
Donc, c'est un problème insoluble. Donc, effectivement, c'est des déclarations d'intention. Ça peut être considéré comme un coup de com' si on l'analyse l'analyse politiquement. Voilà. Mais ils ne peuvent rien exiger.
Oui, mais par exemple, les pressions du gouvernement sur les, par exemple, sur Total, etc., fait que Total a mis une limite à 2 euros.
Qu'on n'a jamais atteint pour l'instant.
Oui,
voilà.
Non, non,
mais à un moment, on était au-dessus.
Si ça avait été à 2,30, crois-moi, ils n'auraient pas mis.
Oui, mais à un moment, on était au-dessus.
Ils auraient mis à 2,40.
Donc, voilà. Donc,
après, la question, c'est.
Parce que je termine. On ne peut pas reprocher au gouvernement de faire pression sur.
Non. Mais faire pression, ça veut dire quoi face à des multinationales qui sont parfois plus puissantes que les États?
Oui, ouais. Sauf que il y a un moment où ils le font pas discrètement, tu vois, ils l'assènent, ils le mettent sur les réseaux sociaux.
Donc ils vont pas faire en loser non plus. Hein.
Mais il y a quand même beaucoup de com. En fait, c'est
bien sûr. Oui, mais si ça comme bénéficie.
Disons que Clément Beaune est intervenu hier matin à la radio pour faire cette demande et dans la foulée, je pense que c'était une heure et demie plus tard, Vinci a dit ah bah oui, banco, on fait 20%.
C'est ça.
Ouais. Ça semble un peu combiné tout ça quand même. Voilà.
Téléphoner, voilà, c'est
négocier,
ça.
On va dire.
Mmh. On est avec Stéphane qui nous appelle d'Arpajon dans l'Essonne. Bonjour Stéphane.
Bonjour Estelle, bonjour tout le monde.
Bonjour.
Qui est responsable commercial dans la peinture automobile. Stéphane, alors vous, c'est étonnant, vous êtes contre la baisse des tarifs au péage?
Je ne suis pas pour la baisse et je ne suis pas pour l'augmentation.
Ah oui,
cependant, d'accord. On a quand même un réseau routier qui est exceptionnel en France. J'ai la chance d'avoir ma femme qui est d'origine portugaise.
Ouais.
Et je traverse l'Espagne, je traverse le Portugal, je suis allé en Allemagne, en Belgique. En
Belgique aussi. Ouais.
C'est une catastrophe. Les stations de service sont pas faciles d'accès. En France, on a vraiment un petit bonheur. C'est que la route est vraiment en bon état sur le réseau autoroutier. Et puis, ce sont des sociétés privées à but lucratif. À un moment donné, ils ne peuvent pas constamment mettre la main à la poche en on va aider tout le monde parce que tout le monde doit aller en vacances.
Très bien. Il leur en restera un petit peu quand même, Stéphane.
Ils gagnent beaucoup, 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 beaucoup.
Je sais bien, mais ça ne me choque pas. Fait, je veux dire, une société qui se porte bien, c'est plutôt porteur, c'est de l'emploi qui va se créer. Fait, on ne peut pas constamment dire ah bah comme ils gagnent, il faut qu'ils donnent. Je ne suis pas constamment sûr. Est-ce que les salariés sont mal vus? Est-ce que les salariés ne sont pas bien dans la boîte? Faut raison. Les Français demandent toujours à ce qu'on les aide. À un moment donné, j'ai envie de dire, prends-toi par la main et aide-toi un peu quand même. C'est plutôt ma position.
Eh ben merci beaucoup Stéphane qui est contre la baisse du tarif des péages cet été. Alexandre également nous a appelé au 32-16 de Bezous dans le Gard. Bonjour Alexandre.
Oui, bonjour Estelle Denis. Je suis content de vous avoir au téléphone.
Mais moi aussi Alexandre. Vous partez en vacances en voiture cet été?
Ah, moi non, je prends le train moi parce que je vais à Cherbourg chez mes parents. Donc je prends le train mais je prends l'autoroute fréquemment en camion avec le boulot et tout ça. Non, il n'y a pas de truc gratuit, faut arrêter. On prend l'autoroute pour aller en vacances. C'est pas les 5 euros que l'État, en fait l'État va donner des sous jusqu'à quand? Même pour partir en vacances.
Là c'est pas l'État, c'est les sociétés d'autoroute.
Oui, non, mais ça va être une réduction, mais ils n'ont pas à donner. Ils ont été capables, si vous voulez, de récupérer ça. Ils ont été capables de le gérer. Si demain c'est l'État qui reprend les autoroutes, ça va être une catastrophe. L'État n'a jamais été capable de faire autant d'argent que ce que font Vinci et tout sur
ça, c'est sûr. Oui, ça serait.
Le problème, c'est la redistribution. C'est-à-dire que ces sociétés se portent très très bien, elles sont économiquement prospères, etc. Sauf qu'aujourd'hui, l'arbitrage de ces gains et de ces surgains, parce qu'il y en a eu beaucoup ces derniers mois, elle va plutôt aux actionnaires qu'aux salariés. Tout à l'heure, notre auditeur disait ils sont bien payés. Un patrouilleur d'autoroute, il est payé 13,19 € de l'heure. 13,19 € de l'heure.
C'est
pas énorme pour un métier où on risque sa vie tous les jours. Donc peut-être aussi, il y a peut-être un problème sur la redistribution entre les actionnaires qui ont des actions Vinci et les salariés.
C'est un autre souci. Et c'est pas en mettant les tarifs des péages moins chers.
Je suis d'accord.
L'argent sera mieux redistribué.
Non, je suis d'accord avec vous.
C'est pas une entreprise communiste.
On peut pas dire, Alexandre. Là, on ne peut être que d'accord avec vous. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir appelé au 32-16. On termine. Rémi, on va remercier Fabrice Godefroy. Merci, Fabrice, d'avoir été avec nous. Ça a l'air assez clivant, finalement, ce sujet. Je pensais que tout le monde allait être pour les ristournes, mais pas du tout, en tout cas, pas en ce qui concerne nos auditeurs, Rémi.
La question que vous a posée, faut-il baisser les tarifs pour tous ? C'est Louis qui l'emporte.
Ah oui,
à 86%.
Ah oui, on a eu deux auditeurs, les deux étaient contre, et finalement, vous êtes 86%, mais c'est pas très très étonnant à avoir envie d'une petite ristourne au péage. Tout est bon à prendre, tous les cadeaux sont bons à prendre, vous savez. Allez, dans un instant, il y aura le zapping, le meilleur d'RMC aujourd'hui, et puis après on retrouvera la Minute Conso avec Stéphane Pedrazzi. On parlera du boom des lunettes d'occasion. On n'est plus obligé d'aller acheter ces lunettes chez les opticiens, il y en a également sur les sites de seconde main. On en parle avec Stéphane Pedrazzi, à tout de suite.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, à la radio RMC Story, canal 23 de la TNT. J'en profite pour vous remercier. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en podcast sur l'appli RMC, sur vos applis de téléchargement. 705 000 téléchargements le mois dernier. On est très, très, très heureux. On est avec aujourd'hui Rémi Barré, Thierry Moreau, la petite nouvelle de la bande, Azilise Le Corps d'Urgé, qui est journaliste au Figaro, et Fred Hermel. Et tout de suite, c'est le moment du meilleur d'RMC, le zapping. C'est parti.
RMC, Estelle Midi,
le zapping RMC.
Et on va commencer avec un extrait d'Apolline Matin, ce matin sur RMC. Sommes-nous prêts à affronter le dérèglement climatique ? Après son plan sécheresse, le gouvernement présente aujourd'hui son plan forte chaleur afin que nous puissions nous adapter aux prochaines crises climatiques. Mais pour Jérôme Frignet, directeur des programmes de Greenpeace France, l'État ne prend aucune vraie mesure à long terme.
Et c'est une réaction à l'actualité. Il n'y a aucune planification, aucune anticipation là-dedans, en réalité. Quand on a un gouvernement qui, d'un côté, Christophe Béchu, qui va dire « attention à la maladaptation, on va avoir des sécheresses, etc. », mais quand on voit que de l'autre côté, on continue à encourager un système d'agriculture intensive, basé sur une irrigation massive pour produire du maïs, pour nourrir des animaux qui sont dans des fermes-usines. Donc ce qu'on attend vraiment du gouvernement, c'est une planification à long terme et c'est tout mettre en œuvre pour que, il va falloir s'adapter, mais on va s'adapter à des choses qui demeurent gérables parce qu'on aura réussi à contenir le dérèglement climatique, le réchauffement moyen des températures planétaires dans les limites fixées par l'accord de Paris. Aujourd'hui, on en est loin. L'État a été déjà condamné deux fois pour son inaction climatique et c'est là-dessus qu'on attend l'État.
Voilà, et pour affronter le dérèglement climatique, c'est vrai qu'on met en place des îlots fraîcheurs. Demande si c'est vraiment suffisant, Thierry.
Excusez-moi, on confond deux choses. On peut reprocher au gouvernement de ne pas en faire assez sur le dérèglement climatique, sur des politiques environnementales pour lutter contre ce qui est en train de nous arriver. Mais de l'autre côté, avoir une politique de prévention en disant, je rappelle que passé un certain âge, on n'a pas la sensation de la soif. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont des personnes âgées qui ne savent pas qu'elles ont besoin de boire. Donc rappeler un certain nombre de choses très simples, ça s'appelle la prévention. On le dit souvent sur ce plateau que la prévention n'a pas assez sa place dans les politiques publiques.
Si c'est juste dire aux personnes âgées qu'il faut boire quand il fait chaud, en termes de prévention, on peut peut-être faire mieux.
Non, mais ça fait partie d'un ensemble de choses. Un arsenal. C'est un arsenal. Donc, on peut dire que le gouvernement ne fait pas assez et on peut dire aussi bien jouer pour la prévention. Il faut le faire. Il faut sensibiliser. Si vous avez à côté de chez vous une petite dame que vous ne voyez pas pendant deux jours, vous prenez un peu de ses nouvelles pour voir si elle n'est pas affalée sur son canapé.
Beaucoup de gens en supplémentaire qui prennent des nouvelles de la petite voisine.
La
fameuse canicule
absolument.
Du temps de Chirac. Hein.
Oui, 2003.
Et 2013 aussi.
Ouais, mais c'était il y a 20 ans.
Il y a eu moins de morts.
Ça ne rajeunit pas tout ça, ma brave dame. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie prise de conscience de ça.
Après, bien sûr.
Là où le représentant de Greenpeace se trompe, c'est que c'est pas parce qu'il y a un problème global qu'on ne peut pas traiter aussi les symptômes. Et on traite des symptômes avec des îlots de chaleur, avec des îlots de fraîcheur quand il y a trop de chaleur. Il y a plein de systèmes mis en place où on appelle. Où les autorités appellent les personnes âgées.
Arrêter d'abattre des arbres.
Parce que
ça faut le dire à Madame Hidalgo, par exemple.
Bien sûr, oui, comme à Paris, par exemple, où on bétonne tout. Oui, bien sûr. Donc, encore une fois, c'est au lieu de traiter, le problème de Greenpeace, c'est qu'au lieu de traiter aussi des choses très concrètes et d'être très pédagogue sur des choses très concrètes, c'est toujours dogmatique. Et voilà, c'est bien que le gouvernement fasse ça. On peut pas.
Enfin, le gouvernement, c'est pas dogmatique quand il dit que le gouvernement français a été condamné à deux reprises pour une action climatique.
Oui, c'est une condamnation. Excuse-moi. Alors, mais c'est quoi? Mais condamné
2015-2018
à cause des Allemands, oui, qui ouvrent les centrales à charbon. On est condamné.
Et puis surtout,
soi-disant, il n'y a pas assez de renouvelables.
2015-2018. Bon, c'est sur la période 2015-2018.
C'est pas parce que ton voisin commet une infraction et que t'en as une que lui, c'est pas grave.
C'est sur la période 2015-2018. Et c'est surtout, on s'était fixé de tels objectifs que nous ne les avons pas remplis. Et donc, on a été condamné pour ça.
Est-ce qu'on en fait assez pour contre le dérèglement climatique pour vous, Aziz?
Ce qui est marrant, c'est que là, on voit les messages contradictoires que peut envoyer le gouvernement. C'est-à-dire que on va favoriser la voiture pour les automobilistes cet été, et en même temps, à côté, bah, on va dire faites attention, voilà, on va faire des îlots. Ce qui est très important en fait, mais on ne voit pas très bien sur l'écologie quelle est la ligne du gouvernement.
C'est vrai qu'on comprend pas bien. Non. En tout cas, c'est pas une ligne droite. Voilà, c'est plutôt une route sinueuse. Ouais, c'est l'Alpe d'Huez avec ses 22 lacets. On en est là aujourd'hui pour combattre le dérèglement climatique. Les grandes gueules ce matin sur RMC. Que va devenir notre jeunesse? Une enquête du magazine Le Point révèle que les jeunes font de moins en moins l'amour avec des causes multiples comme l'angoisse de l'avenir, la concurrence du porno, l'excès de réseaux sociaux ou encore le puritanisme. Un constat que partage aussi le prof d'histoire Kevin Bossuet.
Non, mais c'est révélateur de ce qui est en train de se passer dans la jeunesse. Tout d'abord, il y a un retour du puritanisme, il y a un retour de la pudeur sur fond de progression des enjeux religieux. Et moi, je le vois au quotidien avec les élèves. Il y a quand même une remise en cause de l'héritage 68-art. Il est interdit d'interdire. Ça, c'est quand même quelque chose qui est présent. Après, il y a un autre processus. C'est le monde de la virtualité où les jeunes consomment de plus en plus de porno sur Internet, et c'est vrai, ont une approche des autres qui est moins tactile, avec une absence d'empathie, avec l'autre est vu finalement comme une menace. Donc c'est les deux phénomènes qui coagulent et qui produisent en effet ce genre de choses. Et ajoutons également la peur du lendemain, ce qui fait qu'on va moins faire d'enfants, parce qu'aujourd'hui, pour avoir un enfant, il faut quand même beaucoup de courage.
Aziz, le corps d'urgé, bon, c'est votre première dans l'émission. Moi, je suis obligée de me tourner vers vous pour ce sujet délicat, parce que vous n'avez que 26 ans, donc vous êtes la plus jeune d'entre nous. Est-ce qu'il y a un problème avec la jeunesse vis-à-vis de la sexualité?
Je peux pas répondre au nom de toute la jeunesse, je n'en sais rien, mais en fait, il faut trouver quelles sont les causes. Pourquoi est-ce que les jeunes ne veulent plus faire l'amour? En fait, la question, c'est est-ce qu'ils veulent se préserver, respecter l'autre? On voit que les thématiques du consentement sont dans l'actualité. Oui, mais il y a peut-être une crainte qui peut s'installer avec ces thématiques qui sont prégnantes. J'entendais une mère de famille qui a un ado, donc bien plus jeune que moi pour le coup, et qui disait: j'ai peur de brusquer mes copines, je ne préfère pas qu'on parle de ça. Donc il fait d'autres choses, il s'engage dans des assos, etc. Ce qui est parce qu'il prend, il passe pas tout son temps avec sa copine. Après tout, c'est assez positif, et ça veut pas dire que le lien ne se fera pas plus tard. Et finalement, il y a des temps pour tout, et c'est pas peut-être pas très grave si ça ne se fait pas maintenant. Si en revanche c'est parce qu'il craigne l'altérité, si c'est parce qu'il préfère rester sur des écrans à regarder du porno plutôt que d'aller vers l'autre, là ça devient très problématique et on peut s'inquiéter. En tout cas, moi je vais commencer à m'inquiéter pour mes enfants parce que je suis jeune mais un peu précoce.
Mais c'est vrai que faire l'amour, c'est aussi synonyme de légèreté, d'insouciance. On n'est pas dans un monde léger et insouciant. Mais alors moi, je me suis interrogée il y a pas longtemps où effectivement j'étais dans un parc. Voilà, c'est le printemps, il fait beau, et là où allez, il y a 10-20 ans, vous voyez toujours des ados se bécoter sur les bancs publics, comme disait Brassens, être main dans la main. Et aujourd'hui, mais vous voyez plus d'ados se faire des bisous langoureux, se tenir la main, ça n'existe plus. On a l'impression que c'est les vieux qui font ça. Et plus les jeunes. Et moi, ça m'interpelle, Fred Hermès.
Ça m'interpelle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Que sont devenus les petits-enfants des 68-arts de Il est interdit d'interdire. Il y a une vraie vague de puritanisme. Ça, c'est évident.
Je sais pas si c'est ça.
Si, il y a un désintérêt. Et après, la concurrence du porno réel. Et les sexologues expliquent, on a eu souvent des témoignages, que la consommation de porno empêche le désir sexuel. C'est-à-dire que ça provoque des troubles de sexuels très graves. Et comme aujourd'hui, les jeunes ont accès avec les réseaux
sociaux. Oui, mais même la tendresse, tu la vois plus.
Ouais, c'est ouais, ça non, que je veux te dire. Non. Et
se tenir la main, c'est pas faire l'amour.
Il y a plusieurs problèmes différents. Parce que, en effet, les petits-enfants des 68 tards, peut-être qu'ils ont vu aussi l'échec de ce que c'était, cette sexualité débridée vendue par les 68 tards. Je découvrais il n'y a pas longtemps l'œuvre de Dépente, donc un peu en retard. Ouais, mais je lisais Vernon Subutex. Et on voit que ce rocker qui ne veut surtout épouser aucune norme sociale, toutes les nanas, et lui-même, lui, finit SDF, toutes les nanas autour de lui, elles sont seules à 40 ans, elles sont malheureuses parce qu'elles n'ont rien construit, parce qu'elles préféraient consommer de la sexualité. Et on voit que c'est ça aussi l'idéal qui a été vendu. Et peut-être que la jeunesse cherche autre chose aujourd'hui. Et ça, c'est positif.
C'était pas l'idéal, c'est-à-dire qu'il y avait une période, on va dire,
de la vie,
où on s'amusait.
On ne construit rien, construire une famille,
il y avait quelques années
se mettre en couple, l'amour et construire.
Non, mais on peut avoir.
C'est un retour de bâton.
Quand on est jeune, c'est bien de connaître beaucoup de gens. Et un jour, voilà, tu rencontres une personne, etc. Je veux dire, batifoler.
Mais ça, je suis pas sûre. Laisse qui manque de légèreté,
C'est
même les bisous.
Qu'il faille défendre une sexualité avec plusieurs partenaires. On peut très bien construire quelque chose avec un seul partenaire.
Dans la majorité de la population, c'était en plus la tendance, c'était embrasser sur les dépelles, comme on disait quand on était au collège.
Personne
sur les dépelles.
Ça, c'est un truc.
On pensait qu'à ça, quoi. Enfin, vraiment, c'était.
J'ai l'impression qu'il n'y a même plus de boom.
Les voyages. Ah oui, les booms.
Excusez-moi, on a l'impression que 110 ans.
Les booms et les voyages scolaires.
Il y a eu le Covid très propice au premier baiser,
de roulage de
voyage scolaire.
Mais bien sûr,
alors, il faut savoir que c'était consenti. Attention,
oui, bien sûr.
Appelle consenti, hein.
Avec la fille de ma prof d'anglais. Voilà.
Je
trouve ça un peu rude de mettre sur le dos d'aujourd'hui des gens qui sont seuls aujourd'hui le fait que ce serait une prise de conscience par rapport à une sexualité débridée post 68 tarde. Non, moi je suis d'accord avec Fred. Il y a une période de la vie où on est un petit peu plus libre et puis une fois qu'on a rencontré la personne. Entre guillemets, on se casse, quoi. Enfin, voilà.
Ce sont vos normes. La jeunesse d'aujourd'hui, elle ne souhaite peut-être pas ça.
Après, le
vrai problème, c'est est-ce que. Ça, c'est votre avis. Et peut-être que, en effet, si elle passe davantage de temps sur les sites pornographiques, là, c'est un autre problème.
Non, mais le premier coup d'arrêt, ça n'a pas été le porno, ça a été le sida. Ça a été. Enfin, moi, je me souviens de cette période-là. Ça a été un arrêt brutal de cette liberté sexuelle parce que ça a été très compliqué. Mais voilà.
Mais là, je pense qu'on se trompe de sujet parce que encore une fois, quand on ne voit plus de jeunes se tenir la main ou encore une fois s'embrasser dans les lieux publics, on n'est pas sur une liberté sexuelle.
Moi, j'ai jamais fait ça.
Je vous parle pas de faire de l'amour sur un banc. Oui, mais vous n'avez jamais fait ça.
Parce que je suis pas tactile du tout.
Oui, mais vous aviez des copains qui le faisaient.
Oui.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, par exemple, Tu vois des gens qui ont 40, 50, 60 ans se tenir la main, mais tu vois quasiment plus de jeunes se tenir la main.
C'est vrai.
Et ça, franchement, il y a quelque chose qui est quand même du domaine de l'insouciance, un petit peu de la légèreté, qui s'est perdu aujourd'hui. C'est pas, pour moi, c'est pas que faire l'amour. Et on a l'impression, effectivement, que de toute façon, aujourd'hui, quand t'interroges des jeunes, c'est qu'est-ce que vous avez fait de notre planète? Mais non, mais on va pas s'en sortir, on a plus envie de faire d'enfants. Et puis, enfin, souvent, pour faire des enfants, faut quand même faire l'amour. Enfin, c'est
Et surtout, oh comme t'y vas.
Et puis on sépare pour un oui pour un non aussi.
On sépare pour un oui pour un non, mais aussi.
C'est un truc qui me sidère.
Et puis aussi, on n'écoute plus les gens parce que de toutes les manières, on est aussi sur les. Ils sont aussi, ces gens-là, sur les réseaux sociaux. Oui. C'est-à-dire que nous, quand on est né, il n'y avait pas le téléphone portable. On avait un téléphone avec un fil qui faisait 18 mètres et on attendait des coups de fil toute la soirée qui parfois ne venaient pas. Et aujourd'hui, les jeunes, ils sont sans arrêt sur leur téléphone. Déjà, ça leur fait quand même du temps disponible en moins, Thierry Moreau.
Oui, c'est pas faux.
Vous n'aimez pas ma théorie.
Je suis d'accord avec ce que vous dites. Il y a un côté moins tactile aujourd'hui qu'à une certaine époque, mais comme moi je ne l'ai jamais été, ça ne me gêne pas beaucoup.
Oui, mais les gens normaux étaient tactiles.
Voilà.
Oui, ça va. Allez, on va terminer avec un extrait d'Apolline Matin, j'adore. Écoutez bien cette question. Comment se comporter lors d'un premier rendez-vous? L'IFOP a sondé 1500 Français en leur posant plusieurs questions autour de l'organisation et du déroulement d'un premier rendez-vous amoureux. Et Charles Magnan nous a dévoilé ce matin les résultats.
D'abord, c'est à l'homme de choisir et de réserver le resto. C'est ce que pensent encore 60% des Français. On en a même 1/5 qui estime qu'une femme doit arriver en retard pour se faire désirer lors du premier rendez-vous. Et puis alors, une fois installé à table, on évite le faux pas, à savoir le téléphone. Et oui, c'est ce qui agace le plus les Français. 60% ont déjà vu leur partenaire poser ostensiblement son téléphone sur la table. On fait aussi attention à ce qu'on commande. 27% des Français ont évité de manger trop copieux ou trop gras pour ne pas donner une image de laisser-aller.
Et là, il y en a par là.
Oui, bah 36% évitent les aliments, je cite, qui peuvent contrarier la digestion ou donner mauvaise haleine. Bah oui, il faut penser à la suite de la soirée. Et puis, il y a la question sensible de l'addition. 65% des Français estiment encore qu'il revient à l'homme, quoi qu'il arrive, de payer l'addition d'un premier tête-à-tête au restaurant.
Fred Hermel, vous qui êtes célibataire, est-ce que vous payez l'addition lors du premier rendez-vous ?
Toujours.
Ah ouais.
Mais ça m'énerve quand au deuxième, on ne paye pas l'addition. C'est-à-dire que moi, je suis pour un équilibre vraiment.
Ah d'accord. Vous payez le premier pour qu'on vous paye le deuxième.
Non, mais je veux dire, le mec qui paye tout le temps, c'est non.
Ah moi je suis pas d'accord. Alors moi je vais te dire tous les déjeuners que j'ai fait et même enfin à chaque fois que c'était un déjeuner avec une femme, j'ai toujours pris soin de régler.
Mais à chaque fois,
toujours.
C'est un peu dans le côté pro, y compris dans le côté pro.
Non non, moi j'invite
toujours.
La première fois j'invite toujours.
Lui il invite dans un boui-boui la première fois, il se passe la deuxième.
Tu me connais mal et la truc ne pas prendre de cassoulet. Si jamais ça marche, c'est tu vois, si jamais.
Moi, j'ai vu des spaghettis bolognaise que je mange jamais.
Il faut un truc léger.
Faut pas se tâcher.
Tu vois, les lentilles, les flageolets, tout ça, il faut éviter si jamais ça.
J'ai jamais pensé à ça.
Eh ben, si.
En même temps, j'aime pas ça, donc je m'en fous.
Oui, parce qu'après, tu sais, ça t'a détaillé.
Vous en êtes tous. Vous en êtes tous
au premier rendez-vous.
Moi, j'aime beaucoup. Et par exemple, tu vois, j'aime beaucoup les flageolets, oui. Mais j'invite au premier restaurant, etc. Je choisis le restaurant. Oui. Et si ça marche avec la fille, qu'elle a envie de me revoir, qu'elle ait l'idée d'un resto et qu'elle dit, mais je t'invite dans tel resto. Ça, je trouve ça très beau et très équilibré. Finalement, je suis déconstruit sans savoir.
Oui, ça nous étonne un peu.
Ah, c'est marché, hein.
Oui, c'est ça.
Allez, j'adore les flageolets avec les
filles. Dans un instant, on parle conso avec Stéphane Pedrazzi, le boom des lunettes d'occasion. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
13h50 sur RMC, RMC Story. Vous êtes dans Estelle Midi. Et comme chaque jour, on va parler conso avec Stéphane Pedrazzi. La minute conso, c'est tout de suite.
RMC, Estelle Midi.
La minute conso.
Et on va parler aujourd'hui, Stéphane, d'une tendance qui, je vous l'avoue, m'avait totalement échappé. C'est le boom des lunettes d'occasion. Je ne savais même pas que ça existait.
Oui, ça se développe pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça concerne beaucoup de monde. Hein. On est 3 Français sur 4 à porter des lunettes. Et ensuite, parce que les règles de remboursement ont changé. Ça ne vous aura sans doute pas échappé si vous avez des lunettes. Mais depuis quelques années, les complémentaires ne prennent en charge qu'une paire de lunettes tous les 2 ans. Et les complémentaires qui proposent des contrats responsables plafonnent maintenant le remboursement des montures à 100 €. C'est très très peu 100 euros, c'était 150 auparavant. Donc si vous cassez vos lunettes avant le 2e anniversaire de la paire de lunettes, vous n'aurez pas droit à une prise en charge. Et si vous aimez les marques haut de gamme qui sont chères, forcément avec 100 euros, vous n'allez pas aller très très loin. Donc ça peut être une bonne idée d'acheter effectivement une paire d'occasion.
Alors on est d'accord que ça ne concerne que les montures, parce que c'est quand même rare de trouver une monture qui vous plaise avec des verres qui sont à votre vue.
Je te rassure, on ne va pas te forcer à porter les montures et les verres de mamie. Voilà. Il faudra évidemment de toute façon acheter des verres adaptés à votre correction, parce que même si vous trouver une correction similaire, l'écartement des yeux n'est pas le même chez toutes les personnes, et donc ça risque de vous faire mal à la tête, de vous donner des nausées. Donc effectivement, ça ne concerne que les montures. Côté tarif, une monture reconditionnée, ça coûte jusqu'à 30% moins cher que la même monture ou équivalente en neuf. Donc ça peut être quand même un bon plan.
Oui, mais est-ce que c'est remboursé par la mutuelle?
Alors ça peut être remboursé par la mutuelle, effectivement, si tu passes par un opticien qui propose des montures d'occasion, parce qu'ils ont un agrément. Et si tu n'as pas acheté de lunettes dans les 2 dernières années, tu as droit à une prise en charge de la sécurité sociale et de la mutuelle. Donc ça marche aussi sur des lunettes d'occasion, c'est intéressant.
Mais alors si j'achète une lunette d'occasion sur Vinted, ça marche pas?
Non, parce qu'ils n'ont pas d'agrément. Donc effectivement, il faut passer par un site ou par un opticien agréé.
Mais c'est vraiment nouveau, parce que ça m'avait échappé cette tendance, hein. Ça c'est sûr, Stéphane Pedrazzi, mais j'ai pas l'impression que ce soit un truc d'une nouveauté incroyable d'acheter des lunettes d'occasion.
Alors on trouve des lunettes d'occasion sur Vinted, sur Vestiaire Collectif, sur Vide Dressing depuis des années, mais essentiellement des lunettes de soleil. Si ce sont des lunettes qui sont en très bon état et d'une marque de luxe connue, ça se vend généralement très très bien. On trouve aussi des lunettes de vue d'occasion, mais leur état est souvent aléatoire, parce qu'en fait des lunettes qu'on porte tout le temps, c'est fragile, ça s'abîme rapidement, donc c'est un petit peu joué à la roulette. Du coup, ça a donné l'idée à certains de se spécialiser dans les montures, donc des sites dédiés aux lunettes d'occasion avec toute une logistique. Donc, eux, ils les récupèrent, ils les réparent, ils les nettoient et ils vous garantissent qu'elles sont en bon état. Et puis, finalement, et c'est là que le marché est en train d'accélérer, ça a donné des idées aux grandes chaînes d'opticiens. Par exemple, Lissac, Optique 2000, écoutez voir, ils se sont tous mis aux lunettes d'occasion avec des avantages. Tu l'as dit, on peut bénéficier de la couverture de la mutuelle. Et puis surtout, vous allez être conseillé, parce que si vous portez des culs de bouteille, désolé pour ceux qui ont des corrections un petit peu fortes, mais il faut aussi des montures adaptées. Sinon, sinon c'est pas beau en fait.
Exactement. Enfin, même avec des montures adaptées, c'est pas beau, je vous assure. Du coup, ça peut être un bon plan quand même, Stéphane, de revendre ses anciennes paires de lunettes.
Alors oui.
Moi, j'en ai au moins 15 dans mes tiroirs.
Alors, tu es au-dessus de la moyenne, mais il y a un peu plus de 100 millions de paires de lunettes qui dorment dans les tiroirs en France. Donc, le marché, il est colossal. C'est un bon plan pour l'acheteur, c'est un bon plan pour le vendeur. Alors, n'attendez pas non plus des miracles. Une paire d'occasion en bon état, vous pouvez récupérer quelques dizaines d'euros. On m'a dit 50 au maximum en cash. En revanche, si vous passez par un opticien qui a un système de reprise, vous pouvez avoir un bon d'achat jusqu'à 100 euros chez Général d'Optique. Sachant que le prix moyen d'une paire de lunettes, c'est 425 euros en France. Donc, ça peut faire quand même un apport intéressant. Surtout si vous avez craqué pour une marque un petit peu chère, ça peut être l'apport, le petit coup de pouce qui vous manque.
Alors, quand on n'a pas besoin de ces euros, on peut aussi faire don de lunettes à des associations, et les associations qui les récupèrent.
Oui, on peut faire un geste, effectivement, un geste pour aider les personnes qui ont besoin de lunettes. Ça s'appelle Lunettes sans frontières au pluriel.
Ah,
en France, elles sont distribuées gratuitement à tous les services sociaux qui en font la demande. Et à l'international, elles sont distribuées à des ONG. On estime qu'il y a 200 millions de personnes dans le monde qui ont besoin de correction de lunettes, mais qui n'ont pas les moyens de s'en acheter. Donc, 200 millions de personnes qui vivent dans le flou pour... oui, c'est la vérité au quotidien. Je vous l'ai dit, il y a un potentiel important, 100 millions de paires quand même. Allez, on peut faire un effort.
Exactement. Merci beaucoup Stéphane Pedrazzi. Tous les jours, on parle conso avec vous, Stéphane, à 13h50 dans Estelle Midi. Stéphane, quand vous étiez étudiant, est-ce que vous avez
vécu... Il y a longtemps
vécu...
alors.
Non, pas tant que ça. Est-ce que vous avez vécu l'expérience de la coloc?
Non. Enfin, coloc de riches, en fait, parce qu'on avait un appartement dans le même immeuble. Donc, en fait, c'était chacun chez soi, mais tous ensemble.
Ouais. Alors, on avait une suite dans le même grand hôtel. Non, mais c'est extraordinaire.
Oui, c'est un peu ça.
Ça s'appelle pas une coloc, ça.
Ah.
Non, mais ça n'a
alors,
rien
non,
à voir.
Non, mais
une coloc, c'est avec des chambres dans le même appartement et puis un espace partagé.
Je vais être très honnête. Le frigo partagé avec chacun son nom sur un rayon du frigo, ça, c'est un petit peu le truc.
Vous êtes snob, c'est incroyable.
Mais je suis pas snob.
Bah, si, vous êtes snob.
Mais j'ai pas envie de retrouver le Munster des gens sur mon rayon du frigo, quoi.
Mais les gens, attention, les gens sont civilisés. Ils mangent pas du Munster et de l'époque.
Alors on doit pas avoir les mêmes amis en fait.
mais ça se
c'est
saurait.
Ça le problème.
Effectivement. En tout cas, il y a 2,5 millions de Français qui vivent en colocation aujourd'hui. Mais pour vous, habiter avec un senior, un étudiant, un ami, est-ce que c'est l'enfer ou le paradis? Est-ce que vous pourriez vivre en colocation? On attend vos témoignages. Je vous appelle au 32 16 et sur l'appli RMC. À tout de suite.
RMC midi 15h.
Estelle Midi.